vous suit.
Voici les titres du journal.
La socialiste Elisabeth Baumschneider et l'UDC Albert Rösti élu au Conseil fédéral où ils remplaceront les démissionnaires Simonetta Sommaruga et Uli Maurer. Retour sur leur élection dans ce journal. Le budget 2023 du canton de Vaud était au cœur des débats hier au Parlement cantonal. Les prévisions financières du Conseil d'État ne convainquent ni la gauche ni la droite. Décryptage tout à l'heure en compagnie de Julie Guay. Pour la deuxième année consécutive, la population de Port-Valais a validé hier soir un budget déficitaire. L'excédent de charges se monte à 1 millions de francs. Et puis budget 2023 aussi pour Colombey-Murat. Cette fois, il sera dans le rouge à hauteur de 700 000 francs l'an prochain. Ce qui n'empêche pas la commune d'afficher des ambitions en termes d'investissement, nous expliquera son président Olivier Turin. Du sport aussi dans cette édition. Football, soirée cauchemardesque pour l'équipe de Suisse, sortie sans gloire par le Portugal en 8e de finale du Mondial au Qatar. Et en ski freestyle, la Chablaisienne Amélie Bigler manquera la prochaine saison en raison d'une blessure au genou.
Et pour la météo du Stratus cet après-midi, aussi quelques éclaircies. Demain, un peu le même type de temps avant l'arrivée de la neige dans la nuit de jeudi à vendredi. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour à tous. C'est une première historique. Le dernier né des cantons suisses, le Jura, a désormais une conseillère fédérale. La socialiste de 58 ans, Elisabeth Baumschneider, a été élue ce matin par l'Assemblée fédérale au Conseil fédéral, battant la favorite baloise Eva Herzog au troisième tour de scrutin. L'Assemblée fédérale a aussi élu l'UDC Bernois Albert Rösti pour succéder à Uli Maurer avec 131 voix contre 98 au Zurichois Hans Uli Vogt. C'est un sacré clin d'œil à l'histoire récente de ce pays d'avoir simultanément élu au Conseil fédéral une jurassienne et un bernois. Elisabeth Baumschneider devient ainsi la 121e conseillère fédérale et la 10e femme à accéder au gouvernement. Un grand moment d'émotion ce matin au Palais fédéral.
Majorité absolue, 123. Est élue avec 123 voix.
Elisabeth Baumschneider.
C'est avec un profond respect et surtout un fort sentiment de gratitude et de responsabilité que je suis devant vous à l'instant présent. Je m'engagerai avec passion et sans relâche pour être à la hauteur du mandat que vous me confiez. Et j'apporte, chers amis, l'amitié jurassienne au sein du Conseil fédéral et également dans les chambres fédérales. Nous avons l'amitié fidèle, nous avons l'amitié joyeuse. J'ai désormais hâte de me mettre au travail et aux côtés de mes collègues, de contribuer à la prospérité de notre pays.
L'amitié joyeuse, on retiendra ça. La matinée a donc réservé son lot de surprises et rien ne s'est vraiment passé comme prévu. Récit avec notre correspondant parlementaire, Serge Jubin.
L'Assemblée fédérale devait d'abord élire le successeur d'Uli Maurer avec un duel qu'on pensait déséquilibré, au final plus serré que prévu.
Est élu avec 131 voix,
Albert Rösti.
C'est un score modeste pour un hyper favori. On a senti une forte volonté du Parlement de brouiller les cartes en accordant 98 voix à Hans Uli Vogt. Il a ensuite fallu 3 tours de scrutin pour élire celle qui succédera à Simonetta Sommaruga et une grosse tension après les résultats du premier tour.
Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
Les résultats d'élection ont obtenu des voix.
Elisabeth Baumschneider,
96.
Eva Herzog,
83.
Daniel Josic,
58.
Au deuxième tour, 30 voix attribuées à Daniel Josic se sont reportées sur les deux candidates. Elisabeth Baumschneider est restée en tête avec 112 voix contre 105 à Eva Herzog. L'écart s'est resserré, mais il ne manquait plus que 9 voix à la jurassienne pour être élue. La délivrance est arrivée à 10h23 au terme du troisième tour.
Elegida ai kunchien venche trais vusts. Gewählt ist mit 123 Stimmen.
Est élu avec 123 voix.
Elisabeth Baumschneider.
Je promets d'observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.
Frau Bundesrätin Baumschneider.
Je le promets.
La jurassienne sera donc conseillère fédérale à partir du 1er janvier.
L'autre élu au Conseil fédéral est donc l'UDC bernois de 55 ans, Albert Rösti. Tout sourire, soulagé lui aussi. Écoutez ses premiers mots.
Le Conseil fédéral ne peut pas relever seul les défis de notre époque. Je vous prie donc de me soutenir dans mon nouveau rôle que vous m'avez donné, votre voix ou non. Pour vous tous, chers collègues, la porte de mon bureau sera toujours grande ouverte. Je me réjouis de poursuivre notre bonne collaboration pour notre cause commune. pour tout le pays et pour son avenir.
L'élection d'Albert Rösti et d'Elisabeth Baumschneider au Conseil fédéral permet au Jura bernois de revenir au Conseil national avec Manfred Buller, premier des viennent ensuite de l'UDC bernoise. Au Conseil des États, la Brandrutten Mathilde Crevoisier succédera à Elisabeth Baumschneider. A noter que l'arrivée d'Albert Rösti, 55 ans, et d'Elisabeth Baumschneider, 59 ans, le 24 décembre, va légèrement rajeunir le Conseil fédéral au 1er janvier. La moyenne d'âge va ainsi passer de 61 ans et un peu plus de 6 semaines à 58 ans et environ 3 mois et demi. Sachez aussi qu'Elisabeth Baumschneider, Albert Rösti et Elisabeth Baumschneider vont gagner environ 445 000 francs bruts par an. S'y ajoute une indemnité forfaitaire annuelle de 30 000 francs et la Confédération prendra à sa charge, les frais de télécommunication. Pour mémoire, un conseiller fédéral a droit à deux véhicules, un officiel et un de fonction, ainsi qu'un abonnement général de première classe, ainsi qu'un abonnement général pour les remontées mécaniques. Vous dire enfin que l'Assemblée fédérale a aussi élu le président de la Confédération pour 2023. Ce matin, il s'agit du socialiste fribourgeois Alain Berset. Il n'a pas fait l'unanimité, 140 voix sur 232 possibles. Il y a notamment eu 46 bulletins blancs. La vice-présidente sera la valaisanne Viola Amert. Le Grand Conseil vaudois a entamé hier ses discussions sur le budget 2023 du canton et le moins que l'on puisse dire, c'est que les débats ont été vifs, tous bords politiques confondus. Si la présidente de la Commission des Finances, la PLR Florence Grosse, a incité ses collègues à soutenir ce budget, eux ne l'ont pas entendu de cette oreille. Analyse Julie Guay.
Un budget trop hérité de Pascal Broulis pour la droite, un projet pas assez ambitieux et délaissant les plus précaires pour la gauche. De nombreux reproches ont été adressés aux 7 membres du Conseil d'État présents hier après-midi à Lausanne. Adrien Buclin, député pour le groupe Ensemble à gauche POP.
On est dans un contexte social difficile où il y a des baisses de revenus pour les personnes modestes qui sont liées à l'inflation. Et face à cette situation, il faudrait que le Conseil d'État et les autorités renforcent la politique sociale du canton. Je pense notamment à indexer, par exemple, les bourses ou d'autres aides sur le coût de la vie. Ce n'est pas le cas. Donc nous, on déplore ces manques au niveau de la politique sociale.
L'équilibre de ce budget ne tient qu'à un fil, voilà l'une des déclarations de Valérie Ditli. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Je pense que c'est faux parce qu'en fait, dans ce budget, les recettes fiscales, elles sont fortement sous-estimées. Il y a en fait plusieurs centaines de millions en moins qui sont prévus alors que les recettes fiscales vont croître en 2022 et 2023. Et donc en fait, le budget, il est beaucoup plus solide que ce qu'on pourrait croire, ce qui laisse une marge de manœuvre justement pour développer ces politiques sociales et aussi pour renforcer le volet écologique du budget.
Le budget, qui table sur un déficit de 227 millions de francs, n'a pas non plus su satisfaire la droite. Le député UDC Yvan Pahut n'a d'ailleurs pas hésité à sortir de sa poche et brandiller un carton jaune, ultime avertissement adressé au Conseil d'État. Yvan Pahut.
Aujourd'hui, effectivement, on a donné un carton jaune à ce nouveau gouvernement mis en place, cette nouvelle majorité. Il hérite du budget qui a été établi par la législature précédente. Il avait très peu de marge de manœuvre. Nous, c'est clair qu'il ne nous convient pas, ce budget. Mais voilà, comme on a une nouvelle majorité, il faut aussi lui laisser le temps de se mettre en place et d'orienter pour le prochain budget des nouvelles directives et surtout des diminutions de charges et une limitation du nombre d'emplois créés dans ce canton.
Résultat des courses, les députés au Grand Conseil ont voté à l'unanimité l'entrée en matière du projet de budget pour l'année 2023.
Il vous dira encore que l'examen du budget cantonal vaudois se poursuivra cet après-midi lors d'une séance qui a été fixée sans limite de temps.
Mais on reste dans les chiffres. Yves, pour la deuxième année consécutive, la commune de Port-Valais a présenté un budget déficitaire à sa population.
Hier soir, l'Assemblée primaire a accepté un projet 2023 qui prévoit un excédent de charges d'1 million de francs. Au poste des investissements, la commune prévoit 385 000 francs pour la construction d'une passerelle et d'un ascenseur afin de relier le bas du village à la route cantonale. Elle budgétise également 75 5000 francs pour la plantation de 7000 mètres carrés de vignes aux Évouettes. Pierre Zopeletto, président de Port-Valais.
On a fait un ouvrage de sécurité aux Évouettes d'Amont et cet ouvrage a une grande bande de terre. À l'époque, c'était un vignoble. Le conseil a décidé de replanter de la vigne. On s'est approché de différents vignerons. On a demandé des offres et on a pris l'offre de la famille Beltrami à Viona qui vont s'occuper de planter la vigne, de soigner la vigne, de faire les vins. Et les 75 000 francs, c'est le prix des cèpes. Et tout Beltrami va faire. C'est au budget cette année, mais ça sera planté en 2024.
Avec, à moyen terme, l'objectif de faire du vin communal.
Alors, on a déjà du vin communal avec l'entreprise Grenieux qui nous fait ses vins avec nos étiquettes. Mais là, ce sera vraiment un vin communal.
Des propos recueillis par Justin Gray.
Près de 700 000 francs.
Oui, voilà le déficit prévu au projet du budget 2023 de la commune de Colombey-Murat. Un déficit dû à plusieurs facteurs. La crise économique, l'inflation, mais aussi l'augmentation des charges communales. Les investissements sont modérés pour cette année, un peu moins de 5 millions de francs. Un montant relativement bas comparé aux autres années. Olivier Turin, président de Colombey-Murat.
On se situe dans une année de transition où les investissements sont moyens, voire bas. On est en train de terminer une phase d'investissement, notamment par rapport à la route de Clonovet-Prérail et par rapport à notre STEP. C'est sûr qu'on ne va pas rester à ce rythme bas les années futures. On a pas mal d'ambitions, pas mal d'investissements qui sont déjà planifiés, qu'on est en train d'étudier. Donc par la suite, ces investissements vont certainement augmenter à nouveau.
Mais par contre, voilà, vous tenez quand même à rassurer. Le budget est certes peut-être moins bon, les investissements sont peut-être aussi moins élevés, mais par contre, c'est pas catastrophique non plus.
Non, je crois qu'il faut garder confiance. On est dans une période qui est turbulente, qui est chahutée, où on a beaucoup d'incertitudes, mais on espère que cette crise ne soit pas systémique, puis qu'on arrive par la suite à remonter et puis à avoir, disons, que les perspectives qu'on avait il y a 2-3 ans en arrière, ben, continuer à les avoir pour continuer justement à offrir des bonnes prestations aux citoyens.
Le budget 2023 de Colombey-Murat doit encore être approuvé par le Conseil Général. Ce sera le 19 décembre prochain et c'était un sujet réalisé par Léa Journaud. Actualité nationale, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme contraint la Suisse à revoir l'application du délai d'attente légale de 3 ans pour le regroupement familial. Au-delà de 2 ans, les autorités doivent tenir compte du droit au respect de la vie familiale, constate le tribunal administratif fédéral. Le personnel de British American Tobacco à Boncourt dans le Jura a présenté ses propositions pour éviter des licenciements collectifs dans le cadre de la fermeture annoncée de l'usine par le cigarettier. Une mesure qui menace, on le rappelle, de laisser 220 employés sur le carreau. Deux priorités se dégagent des propositions faites par le personnel et les syndicats, maintenir l'existence du site de Boncourt et préserver la totalité des emplois.
Quand les accusés du procès des attentats de Bruxelles se revivent.
Salah Abdeslam et 4 de ses co-accusés au procès des attentats du 22 mars 2016 dans la capitale belge ont en effet quitté ce matin la salle d'audience pour protester en particulier contre des conditions d'extraction jugées indignes. Outre le français Salah Abdeslam, le belgo-marocain Mohamed Abrini, le suédois Osama Krayem et le tunisien Sofiane Ayari, tous déjà condamnés en France pour leur participation aux attentats du 13 novembre à Paris, ont quitté le box. Tout est fait pour qu'on se taise. Tout est fait pour nous briser psychologiquement, a poursuivi de son côté le belgo-marocain Ali El Haddad Dassoufi, avant de sortir lui aussi. Ce dernier est accusé de soutien logistique aux auteurs des attentats qui ont fait, on le rappelle, 32 morts à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et dans le métro bruxellois. Un camion de l'armée russe et un minibus civil sont entrés en collision dans une zone de l'est de l'Ukraine sous contrôle de Moscou, faisant au moins 16 morts et 4 blessés, ont indiqué ce matin les autorités locales. Plus de 150 personnes ont été légèrement blessé ce matin dans la banlieue de Barcelone lorsqu'un train se dirigeant vers cette ville a percuté l'arrière d'un autre convoi, ont indiqué les services d'urgence et la compagnie ferroviaire espagnole. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Et on termine ce journal avec du sport. En football, la Suisse s'est réveillée ce matin avec la mine des mauvais jours. D'aucuns diraient la gueule de bois. Étrier 6-1 hier soir, la Nati est sortie par la petite porte du Mondial au Qatar. Les espoirs étaient pourtant grands au stade des huitièmes de finale, mais en proposant un choix tactique différent de la phase de groupe avec notamment une défense à 3, Murat Yakin a payé le prix fort. Perdu sur le terrain, ses joueurs ont manqué cruellement de repères et d'envie, alors qu'en face, les Lusitaniens semblaient inarrêtable dans cette rencontre qui a donc tourné au cauchemar. Au moment des réactions d'après-match, le Genevois Denis Zakaria ne cachait pas sa déception.
Très lourd, très lourd. Je pense qu'on n'a pas su être à la hauteur des attentes aujourd'hui. Ouais, dégoûté.
Franchement, on n'a pas senti de révolte non plus. Il y a beaucoup moins d'émotions évidemment que face aux Serbes. C'est ce qui a manqué aujourd'hui. On était un peu surpris finalement de voir ce manque de révolte.
Dur à dire. Honnêtement, je pense que oui. C'est sûr que cette révolte, elle nous a manqué. Je pense qu'après 2-0, je pense qu'on... On aurait dû montrer un autre état d'esprit. Malheureusement, on n'a pas réussi. On a pris rapidement le troisième but et ça nous a un peu tué dans le moral. Donc, dur, très dur aujourd'hui.
Oui, ce matin, les regards étaient tournés vers les choix tactiques opérés par le coach de la Nati. En passant de 4 à 3 défenseurs, l'équilibre des Helvètes a été perturbé. Murat Yakin est revenu au terme de la rencontre sur le plan choisi.
Naturellement, la finalité du match est triste. On a essayé de mettre en place un autre schéma tactique pour jouer contre le Portugal. Les absences d'aujourd'hui, notamment dues aux maladies, nous ont malheureusement coûté. Je pense que nous les avons trop laissés jouer. On n'a pas mis assez d'engagement dans nos duels. On a été trop peu dangereux offensivement. Le Portugal a été la meilleure équipe sur le terrain et on doit l'accepter.
Des propos recueillis par notre confrère de la RTS, Bernardin Lehmann, et noté que si une qualification historique était attendue, c'est au final la défaite qui restera dans les annales. En effet, il s'agit de la plus grosse déconvenue de l'équipe de Suisse depuis 1964.
Eh bien, en ski freestyle, Amélie Bigler ne pourra pas chausser ses lattes cette saison.
Oui, l'athlète de Lézin a été victime d'une lourde blessure au ligament du genou. Les espoirs de compétition sont donc éteints pour celle qui avait pris part à sa première Coupe du Monde en fin de saison passée. C'est la deuxième fois dans sa jeune carrière que la Chablaisienne est touchée par ce diagnostic. Un diagnostic qui a amené la rideuse vaudoise, membre du cadre Challenger à Swisski, sur le billard après une intervention chirurgicale. C'est une longue convalescence qui est au programme de la Lézenoude. Un chemin sinueux qui peut s'avérer difficile sur le plan moral, comme nous l'explique Amélie Bigler.
Non, c'est pas du tout évident, mais il paraît qu'il y a des gens qui se blessent plus facilement que d'autres. Donc bon, voilà, je le prends pas trop mal. Bon, en fait, le truc, c'est que j'essaie de rester positive, parce que je sais que si je vais dans le négatif, et bah, mon corps, il va pas bien aller non plus. Si le mental, il va pas, le corps, il va pas suivre. Du coup, bah, le but, c'est de rester positif et de continuer à se motiver, d'avoir un peu d'espoir de s'y remettre, du coup, l'année prochaine.
Et cette convalescence va passer par plusieurs étapes, de la stabilisation du genou jusqu'à sa musculation. Tout va être mis en place pour qu'Alain Lézenoude retrouve le haut niveau. Seul rayon de soleil dans cette grisaille, elle sait à quoi s'attendre pour avoir déjà vécu ce processus.
Oui, exactement. J'ai retrouvé celui de mon ancien genou, du coup je vais l'utiliser. Et oui, il y a exactement ce que j'ai droit de faire par semaine. Mais en vrai, ça va varier de comment je travaille, de comment mon genou il est, de comment ça se passe. Parce que ça peut aller plus vite comme ça peut aller plus lentement et puis il va falloir s'adapter quoi.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Tout en poursuivant sa convalescence, sachez encore qu'Amélie Bigler suit son cursus sport-études, un cursus qui se déroule dans le canton de Berne.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.